L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, dernière séquence de la saison en compagnie de l'USPG, Université des sciences et pratiques gastronomiques, basée à Quimper, une association qui fait entrer l'alimentation en transition, l'alimentation dans toutes ses dimensions, y compris bien sûr culturelle, et qui nous propose donc une réflexion approfondie sur ce que nous mangeons. Cette année, on a traversé les métiers de l'alimentation, pas tous, de la production à la vente des aliments, en passant par la transformation. Xavier Hamon, qui a fondé l'USPG, nous a déjà raconté les vraies coulisses de son métier de cuisinier. Il est de nouveau avec nous aujourd'hui, on s'en réjouit. Bonjour Xavier.
Bonjour Véronique.
Le meunier, la pâtissière, le boulanger, une éleveuse de chèvres sont venus nous voir, un maître d'hôtel pour un pas de côté sur les métiers du service. Aujourd'hui, ce devait être le boucher, mais aucun de ceux que Xavier pressentait n'était disponible. Pourquoi Xavier est-il si difficile de trouver des bouchers ? Des bouchers qui parlent.
C'est une vraie question. Et d'ailleurs, cette émission, bah, ça tombe bien, on peut en parler. Alors, des bouchers, il y en a. Des gens qui travaillent bien, qui savent découper la viande, il y en a. Ça manque pas.
Ah oui, on n'en manque pas. C'est pas une profession en manque de bras.
Alors, si, c'est en manque de bras, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons voilà, qui existent. Mm-hmm. Si, effectivement, c'est paradoxalement, à un moment où. Où on est amené à manger de moins en moins de viande, on manque de plus en plus de bouchers, donc de gens qui savent travailler la viande. Donc oui, il en manque. Et en même temps, dans nos réseaux, il en manque aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je viens tout seul, c'est parce que dans nos réseaux de filières, plutôt de races locales, avec d'élevage extensif, mais finalement, le boucher est encore assez absent. Mais peut-être que la question de la filière, elle a été aussi vue sous l'angle des corporations à chaque fois. J'entends par là que la filière bouchère, elle n'intègre plus beaucoup le cuisinier, elle n'intègre plus beaucoup l'éleveur, et que c'est finalement une filière commerciale dont on parle.
Parce que la plupart des bouchers exercent en quoi ? En supermarché, en fait, c'est ça ou, alors, c'est ça, oui. Qu'on doit comprendre, en fait.
C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est terrible par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur cette antenne bande depuis 2 ans, mais je dois bien avouer que si je devais envoyer un jeune aujourd'hui en apprentissage, je l'enverrais peut-être plus dans une grande surface où il y a de la vraie découpe en volume, où il pourra apprendre, que chez un artisan boucher chez qui il n'y a plus de découpe, ou sont des découpes partielles, et où il apprendra pas forcément grand chose.
Ah oui, parce que les bouchers artisanaux se font découper la viande. Enfin, comment ça se passe ?
Oui, alors aujourd'hui, il y a des filières qui permettent effectivement d'avoir des animaux qui sont prédécoupés. Alors pas au niveau de la pièce, mais au niveau des gros muscles. C'est très étonnant. C'est une filière qui m'interroge beaucoup. Je prétends pas tout savoir sur cette filière-là, mais en tout cas, elle m'interroge beaucoup sur. La transmission de ce qui se passe dans une boucherie, la transmission culturelle aussi. On voit par exemple, quand on travaille sur les races locales ou sur les races anciennes, qui ont un sens, on ne va pas refaire l'histoire des éleveurs.
Quand tu dis les races, on va parler de bovins surtout.
De bovins.
Ouais, parce que le boucher, c'est surtout celui qui travaille la viande de bœuf, mais bon, il y a un peu le mouton.
Veau, bien sûr. Veau, oui. Effectivement, et mouton essentiellement.
Même travailler du cochon, du porc, sans le transformer en charcuterie, c'est encore être un boucher quand même.
Alors ça, c'est très étonnant, parce que une bonne question, une anecdote pas si vieille que ça. Quand j'ai appris à découper le cochon, en fait, je ne savais pas le faire. Et je demande conseil à un boucher qui était proche. À l'époque, je travaillais dans les Halles de Quimper. Et le boucher me dit, mais je sais pas faire, c'est pas mon travail. Comment ça, c'est pas ton... Non, ça, c'est le charcutier.
Ah oui, donc le cochon, c'est pour le charcutier.
Et du coup, j'ai compris qu'effectivement, dans son état, il n'avait que des filets mignons de porc, et peut-être un carré de porc, mais c'est à peu près tout. Donc, la découpe du cochon, déjà, elle était sortie de son circuit à lui. Je ne dis pas que c'est valable pour tous les bouchers, mais du coup, en tout cas, si je voulais apprendre à découper le cochon, il fallait que j'aille plutôt voir un charcutier que voir un boucher.
Volaille, pareil, non ? Enfin bon, c'est pas très compliqué, puis ça se découpe...
Volaille, je pense que beaucoup l'achètent aujourd'hui en filet et en cuisse, et les vendent comme ça sur leur étal, mais ils ne font plus le travail de découpe, ou alors entier. Mais je ne suis pas sûr que tous les bouchers fassent le travail de découpe. d'autant que il y a plus beaucoup de valorisation des carcasses de volailles. Donc encore une fois, si on travaille pas en filière et en coopération avec d'autres métiers, moi en tant que cuisinier, ça m'intéresserait d'avoir des carcasses de volailles de bonne qualité pour en faire des bouillons, pour en faire des tas de choses. Mais comme on travaille plus entre métiers entre nous, ces connexions-là, elles se perdent.
Et autrefois, donc le boucher, c'était vraiment quelqu'un qui choisissait la bête sur pied, qui allait l'amener lui-même à l'abattoir, etc. Enfin, comment ça se passait jadis?
Alors, jadis, et pendant très longtemps, ça a fonctionné comme ça, le boucher faisait partie des notables. Et il faisait partie des notables, pourquoi? Parce qu'il possédait les élevages, il possédait les terres sur lesquelles étaient élevées les bêtes, il abattait dans la cour de la boucherie et grâce à ça, il faisait commerce. Donc, c'était dans la...
Oui, c'était un tout, quoi.
C'était un tout, ouais. Et du coup, il était propriétaire, terrien.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'était à quelle époque?
Alors, ça, c'était jusqu'à la fin du 19e.
Ok, oui.
Voilà, jusqu'à l'arrivée des abattoirs, en fait.
D'accord.
Jusqu'à l'arrivée des abattoirs, le boucher faisait partie des notables de la ville ou du village. Et du coup, il maîtrisait tout de A à Z. Effectivement, là, il pouvait choisir quelle race il voulait travailler, le type d'élevage, et il transformait tout, et c'est lui qui vendait. Et après, ça commence à changer. À partir du moment où les abattoirs arrivent, il y a deux phénomènes qui se passent. C'est qu'on éloigne les animaux de la population.
Déjà, on les cache.
On les cache. On éloigne le sacrifice de la population. On le cache.
Ouais.
Et donc, il n'y a plus de lien entre... Le lien commence à se distendre entre un savoir vernaculaire des populations sur qu'est-ce que c'est qu'un animal, un élevage, le sacrifice, la notion de sacrifice.
Comment on tue l'animal.
Ouais. Et du coup... si on devait aussi aujourd'hui se réapproprier ce qui se passe dans les abattoirs, plus personne n'en voudrait. Donc il fallait bien... C'est quand on a voulu changer de modèle et passer à l'industrialisation qu'il a fallu cacher... La misère que ça sous-tendait.
C'est ça, oui. Ouais. Bon, c'était aussi pour des raisons, on va dire, de santé, hygiénique aussi, les abattoirs sans doute, non. Enfin, il y avait cet argument-là, qui est, on va pas continuer à égorger le cochon au milieu de la cour de ferme, et puis on s'en met partout.
C'est l'argument qu'on ressort aujourd'hui, mais c'est comme si on réécrivait l'histoire, parce que si on reprend l'histoire des abattoirs, j'ai relu il y a pas si longtemps que ça, la naissance des abattoirs à Chicago, où en fait on voit déjà que c'est très lié au développement de l'hyperlibéralisme qui opère et dans la gestion de la viande, il faut passer par le volume. Mmh. Alors après, et les conditions d'hygiène à l'abattoir sont pas meilleures qu'à la ferme à ce moment-là, à la naissance des abattoirs. C'est après que la question d'hygiène légitime s'est posée, mais la première utilité de l'abattoir, c'est de changer de modèle et de changer d'échelle.
Oui, c'est ça, de passer à vraiment...
Et du coup, on commence à découper la filière. Vous avez d'un côté les propriétaires, éleveurs, qui vont soit en fermage, soit en exploitation propre, produire des animaux, qui vont vendre à l'abattoir, et à ce moment-là, c'est terminé pour lui, le travail. Là rentre en jeu l'abattoir avec sa propre économie, qui va devoir faire du volume pour rentabiliser son outil, avec des conditions de travail hallucinantes et déplorables. On peut encore relire, je vous laisserai les références de bouquins sur le sujet,
Il y en a un que j'ai lu, en effet, sur le bœuf, je crois, aux États-Unis.
Exactement.
Je ne sais plus le titre, mais...
Je le retrouverai aussi. Ouais. Et du coup, le boucher qui, après, il devient... Donc, on commence à saucissonner la filière comme ça, et le boucher devient tributaire du travail de l'abattoir. Alors, tant que
c'était... Il n'y a pas de boucher à l'abattoir, quand même.
Alors, au départ, il n'y avait pas de boucher à l'abattoir.
Ah ouais. Et maintenant, il y en a.
Et maintenant, on commence on a une nouvelle génération d'abattoirs qui prévoit les ateliers de découpe, où effectivement, n'importe quel professionnel peut demander un type de découpe particulier, adapté à sa clientèle, à sa façon de travailler, à son équipe, à la compétence de ses équipes. Et des boucheries aujourd'hui, ou même des restaurants à viande qui n'ont pas de professionnels de compétences en interne, peuvent être tentés de commander uniquement du muscle. Plus on a saucissonné, plus on a commencé à détailler la filière, et plus on a perdu une culture continue de la viande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive, vous voyez sur les étals de boucherie en grande distribution, vous n'avez plus le nom du muscle. Vous avez une catégorie à bouillir, à griller, pour les sautés, pour les bourguignons, on ne sait même plus ce qu'il y a dedans.
Oui, c'est ça.
Or, même pour un pot-au-feu, entre un paleron, un gîte, une macreuse, ce sont des textures différentes, des goûts différents, des temps de cuisson différents. Et les trois peuvent se mélanger, mais c'est pas le même goût.
Il faut savoir que le rendu sera pas le même.
Exactement. Et alors qu'on nous vend sous une même formule, pot-au-feu, une viande qui serait identique. En fait, pas du tout. Donc cette culture-là, on l'a perdue. Sur la qualité de la viande, aujourd'hui, vous voyez. Alors c'est un boucher parisien qui me le faisait remarquer il y a pas longtemps. Aujourd'hui, on a des étoiles. Comme dans les restaurants, vous avez la viande 3 étoiles. Donc on reprend les critères de la référence gastronomique sans savoir de quel morceau il s'agit.
Oui, puis quels sont les critères?
Est-ce que c'est une vache allaitante? Est-ce que c'est une vache laitière qui a été réformée? Est-ce que c'est un bœuf? Donc toutes ces notions-là ont complètement disparu. Et quand on veut retravailler à partir d'élevage extensif, localement et territorialement intéressant, qui redynamise les territoires, on est obligé de repartir sur de toute cette connaissance-là.
Ouais. Et on va devoir le faire pour plusieurs raisons, notamment des raisons écologiques, mais aussi des raisons de rapport aux animaux qui sont en train de changer, c'est ça? Ça, vraiment, c'est en train de changer, notre rapport à la viande, même si, pour l'instant, on en mange encore beaucoup.
Ah oui, et tant mieux. Et tant mieux. Moi, je suis le premier à dire que voilà, on consomme de la viande aujourd'hui comme on la consommait que le dimanche avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a une dérive là, qui est arrivée sur des besoins qui sont complètement irréels. Enfin, on n'a pas des besoins en protéines animales 2 fois par jour.
C'est même mauvais pour la santé, en fait, à force.
Trop de viande, trop de charcuterie, en tout cas de mauvaise qualité, ça c'est sûr. Et notre rapport à la viande, c'est aussi notre rapport au vivant. On revient à la question de l'abattage, et cette question-là est fondamentale dans notre alimentation de demain, et on peut pas l'éluder. Et je peux manger de la viande une fois, 2 fois par semaine, ça ne m'empêche pas de devoir me poser la question, moi, de cuisinier, qui la travaille, qui la mange, de mon rapport à l'animal. Et ça, encore une fois, la filière bouchère, je sais pas où est-ce qu'elle en est. Je ne sais pas où poser la question. Les instances représentatives ne se posent pas la question.
Ouais, je ne sais pas, il y a l'interprofession de la viande ou ce genre de
l'interprofession
structure.
L'interprofession de la viande crie au scandale quand on imagine qu'on va limiter le cheptel d'élevage breton.
Récemment, la Cour des comptes a dit, pour des raisons d'environnement, à cause des émanations de méthane, il faudrait que le cheptel français diminue drastiquement, enfin de vaches en l'occurrence. Voilà, donc ça, tout le monde s'est mis à hurler quasiment. Enfin, il n'y en a pas qu'on dit quand même, ça dépend de quel élevage on parle. Enfin, moi, j'ai peu entendu ce commentaire-là, en fait.
C'est justement là que l'interprofession, elle ne se positionne pas, puisqu'elle considère qu'il y a un seul et même type d'élevage et qu'il faut le défendre bec et ongles parce que c'est culturel, parce que nos régions sont faites d'élevage. Sauf que on devait prendre en compte les terres disponibles pour faire de l'élevage qualité en rapport au cheptel français, mais il faudrait 3-4 fois la France pour pouvoir supporter.
Pour avoir toutes ces vaches dans tous ces prés. Ouais, parce qu'en fait, on ne les voit pas, les vaches, en vrai. La plupart des vaches qu'on mange, on ne les voit pas. Elles sont dans des étables. Elles sont très concentrées.
La grosse majorité.
Voilà,
heureusement, il y en a encore, surtout en laitier, qui repassent de plus en plus au système herbager et qui deviennent du coup très dépendants des terres disponibles. Donc, on ne peut pas inventer les terres qu'on n'a pas. Donc, on revient à une raison. Et là, je ne parle même pas encore de bio. Hein. Je parle juste de type d'élevage. Mais effectivement, l'interprofession, elle n'en parle pas. Et nous, cuisiniers, si on veut se préoccuper de cette question-là, on n'a pas le choix. Puisqu'en face de nous, on a des clients, des mangeurs, qui, eux, se posent la question. Et donc, ils nous la posent. Forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on retravaille cette question de rapport au vivant. Je suis en train de lire un livre de Vinciane Després, qui est une philosophe qui a écrit sur qui écrit Habiter en oiseau. Et ce livre
Un titre énigmatique.
En fait, elle reprend un peu toutes les recherches qui ont été faites sur le comportement des oiseaux par tous les chercheurs dans le monde entier. Et elle compulse comme ça d'études où elle repose la question aussi même de la position du chercheur par rapport à l'animal. On a longtemps considéré que l'animal, il ne se battait que pour se reproduire ou pour défendre son territoire par rapport à l'alimentation. Et en fait, elle démontre que c'est faux. Qu'il y a bien d'autres manières d'habiter un territoire, d'où le titre Habiter en oiseau. Et ça nous invite vraiment à nous poser la question de savoir comment on habite aussi un territoire avec les animaux, sans éluder la question du sacrifice. Mmh. Et je trouve que cette question-là, elle est fondamentale. Si on veut, nos régimes alimentaires vont devoir changer. On n'a pas le choix. On peut toujours s'offusquer de devoir limiter le nombre de bêtes en France. On n'a plus le choix. Donc après, on peut retarder l'échéance et faire croire que. Il n'empêche que. Alors, le principal argument de l'interprofession, c'était d'ailleurs, vous voyez bien qu'on n'en produit pas assez en France, puisqu'on en importe beaucoup.
De la viande. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on en exporte aussi énormément.
Alors, exactement. La fin du raisonnement, c'est-à-dire de comparer à ce qu'on exporte et quelle qualité de viande on importe.
Mmh. C'est ça.
De quelle viande il s'agit.
Et qu'est-ce qu'on importe, oui, d'ailleurs ?
On importe du bœuf, notamment. On importe de la volaille. Beaucoup de volailles, alors c'est terrible parce qu'il me semble qu'en Bretagne on produit énormément de volailles.
Je crois, mais qu'on exporte
ouais. Pour beaucoup. D'où l'espèce de contorsion de la région Bretagne pour essayer de recréer une filière qui n'exporterait plus mais qui via les cantines scolaires distribuerait la production bretonne.
Ça paraîtrait du bon sens, déjà.
Du bon sens. Encore faudrait-il rajouter un élément, c'est de quel type de production on parle.
Voilà.
Parce que si c'est plutôt que d'exporter de la mauvaise qualité de l'info manger dans nos cantines, moi, ça ne m'intéresse pas plus.
Non.
Mais par contre, redonner des élevages de qualité qu'on remet dans des cantines, là, moi, je veux bien en discuter dès demain matin. Mais de quel type d'élevage on parle ? Alors là encore une fois.
Et puis il y aura la question du coût, c'est-à-dire que si on fait de l'élevage de qualité, il faudra, ça veut dire rémunérer évidemment les producteurs et productrices, les éleveurs.
Bien sûr.
Et ça voudra dire sans doute réduire les quantités de toute façon.
De toute façon.
Voilà.
Je viens de recevoir le bilan d'un festival pour lequel l'université a fait à manger et a accompagné l'équipe en Ille-et-Vilaine. On a fait des menus carnés, des menus végétariens, des menus mixtes parfois. 2,90 € de coût matière pour un repas à 12 €. Voilà, donc on peut faire. On sait faire, mais il faut en mettre moins.
C'est ça.
Et par contre, on n'a pas discuté le prix du kilo de viande. On l'a payé le prix qu'il fallait. Le prix qui nous était demandé, en fait, dans des élevages de qualité. Donc,
et locaux.
Et locaux. Mmh. Donc c'est possible. Maintenant, changer d'échelle, effectivement, moi, nourrir 1500 élèves dans un collège ou un lycée avec ce type de filière, on sait que c'est pas possible aujourd'hui en termes de volume.
Ben oui, c'est ça. Oui.
Mais est-ce qu'on est condamné pour autant à donner que de la viande de batterie ? Je suis pas sûr.
Oui, c'est ça. Quelle serait l'équation ? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre l'équation ? Alors, rêvons, puisque nous, on passe notre temps à révolutionner l'agriculture dans cette émission, donc rêvons.
Rêvons qu'on sorte des corporatismes, effectivement, pour que des bouchers et des cuisiniers, même s'ils ne sont pas d'accord, commencent à parler ensemble. Rêvons qu'on puisse dire sans crainte d'être intimidé que ce qui se passe en Bretagne est une catastrophe, est honteux humainement, et qu'on ne peut pas se réjouir de ce qui est produit en Bretagne et qu'on doit en reparler tous ensemble.
Oui, parce qu'on vit tous là, en Bretagne.
Parce qu'on vit tous en Bretagne. Rêvons que des journalistes qui traitent de ces questions-là ne soient pas considérés comme des militants à la solde d'une idéologie, mais bien des professionnels qui font leur travail et qui objectivent.
Qui posent les questions, quoi, tout simplement.
Posent les questions, voilà. Rêvons que qu'on puisse vraiment parler en toute connaissance de cause de ces questions-là et qu'on ne soit pas à la merci des lobbies en permanence.
Et quand on dit donc oui, mais alors donc si on restructurait complètement l'élevage breton et qu'on créait des petits élevages de races locales avec voilà toute une le boucher qui je sais pas si c'est le boucher qui redeviendrait éleveur, on peut peut-être pas aller jusque là, mais comment ça pourrait s'organiser? Et puis surtout, est-ce qu'on pourrait vraiment, par exemple, nourrir la population locale? C'est ça la question.
Très honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Alors aujourd'hui, en race locale, évidemment non.
Ah ben non, aujourd'hui, tel qu'elle est...
Ça, c'est sûr. Oui. Par contre, si on remet la consommation de viande au niveau de nos besoins physiologiques, alors on peut baisser drastiquement les besoins, et donc réétudier la capacité des élevages extensifs à nous nourrir. D'autant plus qu'il va falloir aussi qu'on trouve d'autres sources de protéines, que c'est pas la seule et de loin pas qui peut nous nourrir. On a une richesse aujourd'hui qui est encore assez inexploitée, on avait déjà évoqué dans cette émission, ce sont les algues, qui nous produisent des qualités alimentaires indéniables et auxquelles il va falloir s'intéresser. Donc c'est la combinaison de tout ça qui va faire que... qu'on va pouvoir imaginer une autre alimentation. Mais moi, je vois un problème plus important encore, c'est la question foncière. Mmh. C'est-à-dire que toutes ces filières correspondent aussi à un modèle économique qui repose sur la propriété de la terre, la propriété donc de l'éleveur, mais aussi la propriété de l'outil de travail. Un abattoir, s'il appartient à la population... Il peut pas avoir le même type de gestion que s'il appartient à un groupe, un grand groupe privé. International privé, qui mise essentiellement sur la rentabilité de son outil de travail.
Or, justement, oui. Oui, pardon.
Non. Oui. Là, c'est ça.
Oui, et donc, justement, on a un abattoir municipal, au fou, qui est censé devenir intercommunal, mais là, il y a un point qui doit, normalement, on doit le refaire, parce que c'est un vieil abattoir, c'est un vieil outil qui est plus aux normes. Et en fait, on se pose un peu des questions sur quelles dimensions déjà ont été choisies. Est-ce que ça vaut le coup de faire un très grand abattoir si on se met à manger moins de viande? Pour qui cet abattoir? Enfin, ça aussi, en fait, justement là, il serait en tout cas public. Ça serait déjà une chose.
Exactement. Alors, il me semble que cet abattoir est sous délégation de service public et qui a été confié à une société familiale. De mémoire, à moins que ça ait changé. Mais par contre, ça repose toutes ces questions-là. Moi, ce que je trouve frappant dans la question de l'abattoir du fou, puisqu'on parle de l'abattoir du fou, c'est que c'est une Arlésienne.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle.
J'ai commencé à travailler avec des éleveurs en race locale en 2010. On parlait déjà de l'obsolescence de l'outil de travail et de la nécessité de le transformer. Et qu'il y avait besoin, effectivement, pour des tas de raisons. La première étant l'accueil des bêtes.
Le bien-être animal.
Même si, moi, je prône d'autres solutions d'abattage. Mais...
Oui, notamment mobile. Oui, c'est ça, l'abattage mobile à la ferme.
Exactement. Il y a une expérience très intéressante qui vient d'être menée en Bourgogne, après des mois et des mois, voire des années de travail collectif. Un abattoir mobile qui se déplace à la ferme a été créé avec un atelier de découpe adjacent. Il a duré un an. Donc l'abattoir est déjà fermé parce que la filière commerciale n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de volume. Tous les éleveurs ont joué le jeu. Tout le monde les bouchers ont joué le jeu. Tout le monde a vanté la qualité du travail, la relation à l'animal et l'acceptabilité d'une autre forme de relation à la boucherie.
Il n'y a pas eu d'incident sanitaire.
Il n'y a pas eu d'incident sanitaire. Et l'abattoir a dû fermer à cause de manque de débouchés commerciaux.
Oui.
Donc c'était une énigme pour moi.
Oui, c'est ça. C'est la distribution qui n'a pas voulu...
La distribution, voilà.
Et pourquoi ils avaient des arguments ou pas? Il n'y avait pas.
Je pense que ça ne va pas en rester là. Ça demandait tellement d'énergie et aussi d'argent. Que cet abattoir, je l'espère, va renaître sous une autre forme, mais toujours en abattage à la ferme, en retravaillant la partie commerciale, les débouchés commerciaux. Mais ça existe, et c'est possible.
Mais donc, l'abattoir du fou, il a aussi des problèmes, là, justement, pour trouver ses débouchés. Donc, c'est pas parce qu'en fait, on est... même avec un outil standard, on va dire, enfin moderne, on a du mal à trouver des débouchés, apparemment.
La réponse institutionnelle, elle a toujours été la même depuis plus de 10 ans. un abattoir, ça coûte trop cher, ça perd de l'argent. Donc, l'Esnevin, ça doit fermer, Pont-Croix, ça doit fermer. Et on va focaliser tout sur le fou pour avoir un gros outil où tout le monde se déplacera.
Donc, alors, pour l'instant, déjà, bilan carbone, pas forcément. Déjà,
bilan carbone, pas génial. Ce sont les bêtes qui se déplacent.
Et en plus,
encore une fois.
Beaucoup de transport.
Mm-hmm. Une concentration de l'outil de travail dans quelques mains. Et puis après, on ne peut pas repenser aujourd'hui, enfin, imaginer un outil sans repasser de la question, repenser la question de l'abattage, effectivement, de notre rapport à l'animal, de notre consommation. Et du coup, la qualité de la prestation de l'élevage juste avant. Moi, il m'a semblé qu'au fou, il y avait un projet d'atelier de découpe. Au service de qui? Au service de quoi? De quelle filière? C'est beaucoup d'argent public.
Ah oui, 13 millions d'euros, oui.
C'est pour ça que de reposer ça au niveau de la population et de ce qu'elle veut manger, et pas seulement à la chambre d'agriculture ou à l'interprofession de la boucherie, je pense que ça me paraît aujourd'hui évident.
Incontournable.
Et encore une fois, c'est bien parce qu'on aura confronté ces différents paramètres qu'on pourra ensemble redécider où. Quand est-ce que la population est interrogée pour se positionner sur ces questions-là? Moi, j'ai mon avis personnel, mais je ne veux pas. Je suis incapable de dire c'est comme ça ou c'est comme ça, sans ce débat, cette discussion-là.
Oui, une vraie réflexion sur la viande. Voilà.
Sur la viande,
animaux,
et notre rapport au vivant. Je pense que là, c'est. Et c'est là que j'ai besoin des bouchers. Ouais. Et c'est là que je les trouve absents.
Eh bien, oui, ils ont été absents de cette émission.
Voilà. Mais je ne désespère pas. Enfin, ça ne veut pas dire que j'ai travaillé avec des bouchers avec lesquels on pouvait discuter de tout ça. Ils n'étaient pas forcément disponibles aujourd'hui, mais ça ne court pas les rues. Il faut vraiment qu'on sorte de nos corporatismes pour travailler dans des filières avec plusieurs métiers ensemble.
Bon, ben on espère en trouver un la saison prochaine, par exemple. On retrouvera l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les émissions qu'on a réalisées sur le site de Radio Évasion. Merci Xavier.
Merci Véronique.